Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière propose, chaque année, plusieurs expositions. Désormais, elles s'exposent aussi sur les ondes de votre radio, avec un programme en trois temps, intitulé « Sons des Lilles ». Le mix musical, les capsules sonores et la sélection de livres du ou des artistes à découvrir à la librairie du Centre d'art.
A eu envie de nous inviter toutes les deux à discuter et à discuter ensemble parce que bon, vous connaissez déjà Angelica, hein, je pense que plus besoin de la présenter maintenant, Angelica Marcoul. Et moi je m'appelle Marion Vasseur-Alluy, je suis commissaire et critique d'art et ça fait 6 ans que je collabore avec Angelica et que je l'accompagne dans ses projets. Alors qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec Angelica Marcoul? C'est donc d'abord, quand Angelica pense à un projet, on démarre, on travaille ensemble, à la fois à la recherche de financement, pour voir ce projet naître. On part ensemble en tournage, donc on travaille à l'organisation du tournage, mais c'est aussi le suivi des expositions que je fais depuis 6 ans avec elle. Pour les tournages qu'on a réalisés ensemble, il y en a, ça commence à faire un sacré nombre. Mm-hmm. On a commencé au Japon avec un film qu'on ne présente pas ici mais qui s'appelle Zone Yonaguni. Yonaguni, c'est une île qui se trouve au sud du Japon, aux abords de Taïwan, où on est allé filmer un monument enseveli sous l'eau. Donc on est allé filmer sous l'eau, littéralement. Ça a été une sacrée expérience. Ensuite, on est allé filmer dans le désert du Chihuahua des grottes de cristaux. Qui sont à plusieurs mètres sous terre, dans laquelle il est assez difficile de respirer, par ailleurs. On a besoin de combinaisons spécifiques. Et ces cristaux sont immenses. Ils font la taille de plusieurs...
plusieurs mètres. Hein. 14 mètres de long et de 2 mètres d'épaisseur. Et il sera exposé, ce film, à Magval, avec l'exposition sur titre, je ne me rappelle plus c'était quoi comme titre d'exposition, mais c'est en ce moment, c'est le 8, je crois l'ouverture c'est le 8.
Le 6.
Ah, le 6, oh, pardon, voilà. Tu vas, voilà. Et il sera re-représenté ce film à Magval, parce qu'il est dans la collection.
Voilà, et le dernier film qu'on a, avant cette trilogie que vous avez vue aujourd'hui, le dernier film sur lequel on a travaillé, c'était au CERN. Je ne sais pas si vous connaissez le CERN, c'est un institut qui se trouve en Suisse. Et on est allé filmer une machine qui s'appelle l'expérience Alice et qui tente de reproduire l'expérience du Big Bang.
Voilà. Exact.
Donc on a fait ces 3 films ensemble. Et ensuite, on est allé
pour travailler sur la trilogie.
Travailler sur la trilogie. Alors, ce projet, La Formule du Temps, a été réalisé... je dirais ces 5 dernières années. Aujourd'hui, il voit le jour grâce au Centre d'art. Et on remercie énormément Marianne d'avoir donné cette chance à Angelica et lui avoir fait confiance dans tout ce projet. Angelica, c'est une artiste qui, évidemment, compte énormément pour moi. Et qui, depuis une 15aine d'années maintenant, travaille entre la science et la fiction, en produisant ce qu'elle appelle une sorte de mythe, qui est son propre imaginaire. Et on le sent bien dans l'exposition ici, qu'on traverse une ambiance qui est la sienne, un univers qui est le sien. Et donc on avait envie toutes les deux de revenir sur les différentes étapes que représente cette exposition, la formule du temps, et revenir aussi sur le titre de l'exposition, dont a déjà parlé un peu la présidente tout à l'heure, en introduisant le travail d'Angelica.
Voilà, alors en fait, la formule du temps, c'est tout ce qui nous... Voilà, c'est notre vie, la formule. Donc en fait, les premières choses sur la formule du temps, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec des scientifiques, et les scientifiques comme de CNES de Toulouse, par rapport à les chercheurs. C'est les questions qu'on se pose, est-ce que le Dieu existe, est-ce qu'on est le seul dans l'univers. C'est des questions que tout le monde se pose, Donc en fait, eux, ils cherchent toujours une formule de réussir à aller dans l'espace, comme ce soit des mathématiciens. Et voilà pourquoi j'ai appelé aussi cette exposition sur formule, parce que c'est des questionnements de partir et explorer l'autre univers. Et aussi, c'est des questions, la formule de la jeunesse, donc tout ce qu'on peut prendre au niveau de pilule pour être plus jeune, et voilà. Et aussi la formule de pas mourir, hein. C'est vous trouver une formule pour exister ou vivre le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on cherche la formule de virus. Ça, c'était au hasard, mais c'est vrai. On est toujours dans les formules et dans ces questionnements. Donc, en fait, la trilogie, en fait, dans cet espace, en fait, on a 5 chapitres. Donc, premier chapitre, c'est le son, le murmure. Après, mémoire des glaciers. Tella del Fuego, Bepi Colombo et Marella.
Et pour revenir, pour toi, le début de l'exposition, enfin, le début de la trilogie a démarré avec ce film que vous avez découvert dans la nef, qui s'appelle La mémoire des glaciers.
Voilà, exact.
Alors ça, c'est un des tournages sur lesquels on a travaillé et collaboré ensemble. Donc les glaciers que vous voyez sont en fait des glaciers qui se trouvent au sud de l'Argentine, dans une région qui s'appelle Tierra del Fuego, qui est à la frontière en fait entre l'Argentine et le Chili. Nous, on est allés du côté argentin, donc on a travaillé avec une équipe de tournage d'Argentine, et c'est dans une ville qui s'appelle El Calafate. Donc on est allés voir ces glaciers. Et peut-être que
de cette relation, parce qu'en fait chaque film, quand je l'explique, vous savez, c'est comme un peintre qui a une palette, il a toutes ses couleurs, il choisit ces couleurs là en fonction de sa peinture, il commence à peindre. Et moi, c'est les vidéos, c'est un petit peu comme ça la procédure que je fais, c'est que j'ai travaillé avec CNES, encore on revient sur les CNES de Toulouse, pour récupérer les archives de la comète de Souri. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette comète qui en 2015, il a atterri, la sonde Rosetta a atterri sur la comète. Hein. Et ça m'a énormément intéressée, et je me suis intéressée pourquoi en fait ils ont donné pendant 30 ans de leur vie. Il y a des personnes qui sont mortes, ils n'ont jamais vu en fait la sonde se poser. Donc c'est un travail colossal pour une toute petite chose. Et en fait, tout simplement, les chercheurs, ils ont trouvé sur cette comète qu'on vient de la comète. Alors pour revenir sur quelque chose, c'est que il y avait le temps des dinosaures, il y avait la comète qui s'est explosée. Qu'il a fait les dégâts, voilà. Donc, grâce à cette comète, on est là. En tout cas, c'est la théorie de tous les scientifiques. Donc, pour mon film qui est entre la science et les fictions, donc science-fiction, je me suis dit que c'est un très bel commencement de la trilogie. Donc, à partir de cette image de comète qu'on a demandé une autorisation qui puisse nous fournir tous les fichiers. Donc en fait, les fichiers, c'est pas des films. Moi, à un moment, je me suis dit, ah, ils vont me donner des films, parce que c'est assez incroyable. En fait, c'est des petits photos qui c'est pas des 16/9 et tout ça, c'est des carrés. C'est un carré, c'est 1 cm/1 cm que les que en fait la comment on va dire, la sonde
fait des photos
de, voilà, jusqu'à qu'elle se pose. Donc on a récupéré tout ça, et qu'est-ce qui était aussi difficile, c'est qu'il fallait de les mettre en ordre, donc de les faire animer, ces photographies. Et voilà où ça devient un petit peu cet commencement de ma palette de peinture. Et en arrivant, j'ai pris ce site des Calafate, qui est très important pour moi, parce qu'elle présente toutes les sculptures que je l'ai fait. C'est quelque chose d'extrêmement vivant. Il faut se dire que les glaciers où on était, ils ont pas l'air de disparaître. En tout cas, on a parlé avec eux. En fait, ils sont toujours en mouvement. Donc, c'est des glaciers qui vivent, en fait, et qui reculent, et qui tombent, et qui naissent plus loin. Le glacier, il est dans une C'est dans un lac, c'est pas du tout sur la mer et tout ça. C'est dans un lac le plus profond du monde. Alors, je connais pas le chiffre de mètres, combien une mesure. Et voilà, qu'est-ce qui s'est commencé. Et à partir de ça, j'ai réalisé le mémoire des glaciers. Le mémoire, c'est tout le mémoire que les glaciers ils peuvent garder de le début des naissances de dinosaures jusqu'au aujourd'hui, parce qu'il y a des phénomènes qui sont juste incroyables avec le fondement des glaciers et aujourd'hui avec les problématiques de réchauffement climatique, c'est qu'on retrouve des animaux comme Milodon qu'on a retrouvé, c'est un animal préhistorique qu'on vous verrait dans la salle Terra del Fuego qu'on a retrouvé, qui m'a inspiré de réaliser ce projet-là, de le concevoir, et on retrouve des corps d'une époque de 1900, des chercheurs sûrement qui sont promenés dans ces crevasses, qui sont tombés à une époque. Donc tout ce site, là, on commence à vormir toutes ces choses-là et tout notre, comment dire, notre histoire, quoi. Et donc voilà pourquoi ces deux sites et la comète qui m'a intéressée. Donc dans le film, vous voyez aussi des éléments en 3D qui présentent des choses qui coulent. Donc c'est une espèce de formation de nos gènes, quelque chose qui est liquide. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est tout simplement sur mémoire des glaciers, quoi. C'est ce qu'on peut dire.
Et donc l'exposition s'enchaîne avec cette installation qui s'appelle Tierra del Fuego, qui est en lien évidemment direct avec la mémoire des glaciers. Alors ici, tu déploies une série de sculptures, qui est aussi un travail que tu fais depuis une quinzaine d'années, qui sont à la fois des sculptures donc en cire et en feutre. On ne voit pas apparaître le feutre, mais il est à l'intérieur des sculptures. Et puis une série de sculptures en bronze que vous avez vues aussi, qui se déploient avec donc cette sculpture qu'on appelle le milodon que tu as appelé le milodon de terre. Et puis aussi ces sculptures que vous voyez à l'arrière, de visage. Et toutes ces têtes, pour toi, ça représente une tribu amérindienne qui s'appelle les Yagans, qui était une tribu de chasseurs-cueilleurs et qui a été disséminée à la fin du 19e siècle par les Français, puisqu'ils les ont amenés d'Amérique du Sud en France pour être exhibés dans des zoos humains. Ils ont été à la fois malades, ils sont tombés malades, ils ont été disséminés littéralement. Et il n'y a que deux d'entre eux qui ont pu revenir en Amérique du Sud, mais qui sont décédés aussi par la suite.
Voilà. En fait, ils ont revenu de leur région et ils nous ont pas survécu.
Et alors, quand on discutait avec Angelica, pour moi, ce lieu, c'est un peu une crypte, un endroit pour se recueillir.
D'accord, oui.
Et je t'avais demandé si c'était pour leur rendre hommage, et tu m'as dit que c'était plus compliqué que ça. Que c'était pas seulement leur rendre hommage, que c'était aussi...
Non, parce qu'en fait, c'était juste, comme c'est une trilogie, c'est qu'on avait une naissance, et l'an, et justement, Terra del Fuego, c'est juste une paragraphe de l'homme qui détruit l'homme. Et j'avais envie absolument de signer cette catastrophe que... avec toutes les guerres qu'on fait, toutes ces batailles, mais c'est pas aussi politique, je rentre pas là-dedans, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus artistique, mais c'est qu'est-ce que j'avais envie de montrer, la fragilité de l'humain et comment l'homme, il détruit une autre espèce de l'homme. Et ça devient de les aborigènes, on passe partout. Les Noirs de l'Afrique, je globalise tout ce problème jusqu'à aujourd'hui avec les Yagans. Vous allez se poser la question, mais pourquoi Yagans, mais pourquoi pas des aborigènes, et pourquoi pas les Noirs d'Afrique ou une autre peuple. Mais tout simplement parce que j'ai travaillé énormément à Poltérès, juste à côté de Calafate, pas à côté, parce que les distances y sont énormes, et j'en ai fait pas mal de films en Chili. Donc j'ai passé quand même 5 ans dans ces régions-là, et j'étais où il y avait Milodon qui se cachait dans les grottes, et j'étais avec eux, avec ce peuple, je l'ai connu là-bas, et j'ai eu une discussion avec des Indiens, il y avait un échange. Et tout simplement, c'est que voilà, ils étaient extrêmement importants pour moi. important pour beaucoup de choses, parce que c'est un peuple qui, comme ils chassaient, ils avaient des peintures, hein, et des habits juste extraordinaires, hein, des rituels extraordinaires qui m'ont beaucoup intéressée. Et qui, pourquoi ils m'ont intéressée? Parce que c'était des peintures sur leur corps, ça devenait vraiment, vraiment l'art, hein, l'art en même temps brut, mais c'était... Voilà, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui est très touchant. Et voilà, et c'est un travail de Chili, ça m'a ramené en Patagonie, en passant par... que je ne me trompe pas... comment il s'appelle le...
Atacama,
pardon, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Atacama, que je filmais un film qui s'appelle 400 milliards de planètes. J'ai travaillé avec l'observatoire et je rentrais dans le cœur d'ouverture de cette machine. Et après, je fais un autre film avec des Indiens qui m'ont autorisé d'utiliser leur terre pour filmer le ciel étoilé qui s'appelle Terre de départ. Voilà pourquoi ça m'a ramené à le peuple des Yagans. En fait, j'ai fait tout le tour de côté Chili jusqu'à l'Argentine.
C'est vrai que là, tu parlais pour Tierra del Fuego de la relation de l'homme à l'homme. Et ça nous permet aussi d'entrer dans la salle qui se trouve à l'étage, Bepi Colombo. Vous avez découvert des images qui, elles, sont plus, pour toi, liées à l'homme, malgré qu'il soit absent du film. Alors, pour rappeler le titre, en fait, Bepi Colombo, c'est le nom d'une sonde qui a été envoyée en 2018, en octobre 2018, pour atterrir sur Mercure.
Et on l'a suivi.
Et on a suivi, voilà, pendant un an, tous les tests qu'a subi cette sonde afin de pouvoir être envoyée en orbite.
Exact.
Alors, on a notamment collaboré, encore une fois, avec des scientifiques, et cette fois-ci à l'ESTEC, qui est un lieu qui se trouve à Noordwijk, en Hollande. Et l'ESTEC, c'est un centre d'études spatiales à niveau européen. On a été mis en contact aussi avec eux grâce au CNES, avec qui on a beaucoup collaboré. Et on est allé filmer Bepi Colombo là-bas.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est Bepi Colombo?
La sonde.
Ah oui, la sonde, voilà. J'ai oublié, j'ai pas peur. Et donc, en fait, Bepi Colombo, donc pour vous raconter une histoire, en fait, c'est pourquoi je voulais absolument d'aller dans ces endroits, c'est que c'est des endroits hyper cinématographiques et vraiment scientifiques, vraiment science-fiction totale. On aurait pu se retrouver dans un espace de vaisseau avec alien qui ressort ou quelque chose, vraiment, c'est un décor que j'aurais jamais pu réaliser ailleurs, parce que c'est des décors cinématographiques, donc c'est pas dans les studios qu'on peut recréer cet espace. Donc je l'ai trouvé assez étrange, donc on a demandé une autorisation qui était assez longue, parce que normalement on n'a pas le droit de pénétrer, aucune personne qui doit être pénétrée dans ces lieux, pour plusieurs raisons. On est habillé comme des gens qui font des opérations, totalement avec les gants, les masques et tout. C'est vrai, on a des photos. Et on devait rester qu'une heure, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des entreprises qui utilisent constamment ces espaces. Alors, dans les espaces bleus, parce que je pense que vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans les espaces bleus. Alors, dans l'espace bleu où il y a des pics, vous verrez la fameuse Bepi Colombo qui est là en train de tester. Donc là, on reproduit l'espace. Donc c'est les conditions exactement de l'espace. On vide de bruit, on vide de tout, on vide de l'air. Et on communique ailleurs, dans une autre salle. Il y a une communication qui se fait pour voir est-ce qu'elle va marcher bien si elle sera lancée dans l'espace. En fait, ils cherchent toutes les problématiques qu'il peut avoir une sonde lancée dans l'orbite. Deuxième salle, c'est la salle verte, qui est, on peut l'appeler comment ça, ces espèces de gros trucs, des scoopers,
des immenses enceintes.
Comment on peut appeler ça?
Pavillon acoustique,
on peut le dire ça, voilà. Donc en fait, ces pavillons, ils sont juste incroyables, c'est qu'elles reproduisent le bruit de décollage d'une fusée. Donc vous imaginez le bruit que ça peut produire. Il y a trois murs et d'une épaisseur d'un mètre qui ferment les boîtes. Et les gens, pour travailler, sont obligés de sortir dans un autre bâtiment pour voir la manière, comment ils vont encore communiquer avec le bruit. Oui. Avec les Bepi Colombo. Et après, il y a une autre salle qu'on n'a pas pu malheureusement pénétrer parce que l'entreprise qui l'utilisait à ce moment-là, elle nous a interdit pour des raisons tout simples de pas utiliser leurs images. Donc en fait, c'est des plateaux. Et c'est les plateaux, on pose la Bepi Colombo ou des autres tests et elles reproduisent des vibrations de telle manière. C'est la même vibration comme si les fusées décollaient. Ils reproduisent exactement la même force pour voir les...
Si le satellite va...
Non, les clous.
Ah oui, les vis.
C'est les vis. Est-ce que les vis, ils ne vont pas tomber ou se casser? De quelle manière ils vont retravailler les vis et chercher toutes les solutions pour que les vis, ils ne tombent pas. Voilà.
Et donc, dans Bepi Colombo, on voit aussi les images d'un autre site...
Exact.
Qui se trouvent en Sibérie orientale, en Russie donc, et qui sont en fait des lieux d'extraction de diamants. Donc c'est des mines à ciel ouvert, qui sont aujourd'hui désaffectées en extérieur, mais qui continuent à fonctionner en intérieur. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet-là?
En fait, comme je le disais, dès le départ, vous savez comment on crée un film, il y a un scénario qu'on est en train de faire. Donc, la chose première, c'est, voilà, on a des images de, toutes les images qu'on a prises, et comme le film, je voudrais le finir, un départ pour ailleurs, donc on est dans une espèce de machine, on ne sait pas qui contrôle cette machine, est-ce que c'est l'homme ou un robot, c'est extrêmement stérile, c'est très médical, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait la caméra, elle a des mouvements assez rapides, et par moment on a des espèces de flash de quelque chose qui est dehors, avec un rond, et la ville qui est complètement en dessous, et c'est comme un départ dans, voilà, quitter la Terre et partir ailleurs. Et qu'est-ce qui m'intéressait pour Mir, hein, parce que ça s'appelle Mir, cet endroit, c'est que, en fait, en travaillant avec les scientifiques, ils posaient beaucoup de questions pendant quelques années. Je leur posais une question un peu stupide, comme ça, en disant, mais quand vous êtes quand vous travaillez dehors de la Terre, en fait, comme ils travaillent sur des satellites et tout ça, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est réalisé par l'homme? Qu'est-ce qu'on voit de cet espace? Voilà, qu'est-ce qui est visible sur la Terre? Et il nous a dit deux choses. C'est le mur de Chine, de sa grandeur, de que l'homme il aurait pu construire, et les trous de Mir. Donc je me suis dit, c'est quoi les trous de Mir? Et je me suis dit, c'est juste extraordinaire parce que voilà, c'est l'homme qui peut créer des trous de 1 km de diamètre et qu'on le voit de ciel. C'est juste impressionnant. Donc on a, voilà, j'ai pris ces images et on voit ces trous qui sont troués par les hommes et le départ pour futur, mais on ne sait pas par qui. Donc voilà, dans l'explication de trilogie, qu'est-ce que j'avais envie d'appuyer dans ma recherche, quoi.
Et ce qui est assez incroyable aussi, je trouve, dans ce film, c'est la verticalité, en fait. C'est-à-dire qu'on part de ces trous pour aller vers le cosmos, vers la galaxie. Je trouve qu'il y a un mouvement dans celui-là qui est très différent des autres films où tu tends vers la Terre. Enfin, il y a quelque chose de vertical que j'aime, moi, qui me touche. Mm. Et donc, du coup, ça nous amène à Marella, qui est le dernier film qu'on a fait ensemble.
C'était en juillet.
Oui, en juillet 2019, mais terminé en 2020. Et Marella, alors c'est une sacrée...
C'est un
sacré voyage. Marella, donc, c'est un site qui se trouve sur la côte ouest australienne, à côté d'une ville qui s'appelle Broome, qu'Angelica a découvert en faisant des recherches. C'est en fait le lieu où se trouve le plus grand site actuel de traces de dinosaures découvert
à ce jour.
Donc Angelica est tombée, enfin tombée, lors de tes recherches, tu as découvert ça.
Et on a découvert Steve.
Et donc on a cherché la personne qui était à l'origine de cette découverte. qui s'appelle Steve Salisbury, qui est un paléontologue, qui est aussi enseignant-chercheur de l'Université de Brisbane, qui est une université qui se trouve pour le coup sur la côte est australienne. Et pendant un an, avec Steve, on a travaillé pour pouvoir venir avec lui découvrir ces traces de dinosaures.
Mais
il n'y avait pas que Steve dans l'aventure.
Voilà. Mais en fait, les choses qui sont très très drôles, c'est que moi, quand je l'ai vu ce site, je me suis dit c'est extraordinaire, on va prendre les pas des dinosaures, on va faire quelque chose. Donc on contacte Steve, qui n'est pas du tout emballé par notre demande, parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qu'elles volent, elles ne vont jamais venir en Australie. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, en début, il ne nous a pas cru. Donc, ça a mis énormément de temps pour l'avoir déjà. Et en fait, il nous a dit, mais non, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le prendre, les pas des dinosaures. Parce que c'est des terres sacrées par des aborigènes. Et ça, je trouvais ça extraordinaire parce qu'il nous a mis en relation avec les tribus.
Oui, alors la tribu aborigène qui se trouve à Broome s'appelle les Goularabulu. Oui, c'est pas facile à dire.
C'est pour ça que je l'ai dit qu'elle me le dise, parce que j'arrive pas à le dire.
Et donc on a collaboré avec Richard Hunter, qui
est chef.
Qui, ouais. Voilà, les aborigènes présentent leur chef comme un homme de loi. C'est lui qui transmet, en fait, à l'oral, toute
tout
l'histoire,
avoir, mais jamais écrit.
Des Goularabulu. Il n'y a pas de transmission écrite. Et donc, on a eu la chance, grâce à Steve, de rencontrer Richard, et qui nous parle de toute l'histoire de ce site, qui, en fait, est extrêmement mystique, qui a une force et une histoire incroyable.
Voilà. Et pour revenir, ils ont failli perdre ce site. On ne savait pas non plus qu'on rentrait dans quelque chose qui était engageant de notre part et politique.
C'est tout à fait, oui. Parce qu'en fait, au milieu des années 2000, le site, ils ont désiré... Enfin, il y a eu une entreprise privée qui souhaitait construire une usine à gaz aux abords de Broome, et qui aurait détruit tout l'écosystème, tout l'environnement local. Et c'est les aborigènes, les Goularabulu, qui ont appelé Steve et qui lui ont dit « Il faut que tu viennes
pour nous aider. »
Pour prouver qu'il y a bien des traces de dinosaures ici, puisque eux-mêmes le savaient. Mais le site n'avait pas été déclaré, établi comme un site où se trouvaient des traces de dinosaures.
Identifier chaque trace.
Donc ils ont fait tout ce travail pour identifier les traces de dinosaures, principalement pour préserver ce site. Et c'est une bataille qui a duré plusieurs années. Donc ça associait les aborigènes et certaines personnes blanches sur place. Et ils ont gagné la bataille. Donc aujourd'hui, le site a été préservé. Mais la présence de quelqu'un comme Angelica, sans qu'on le sache réellement en y allant, mais a eu un impact aussi. Parce que pour eux, faire venir des gens de très loin comme ça, qui disent « ce site est important, il a une qualité,
une vraie histoire,
une histoire. Le montrer, le diffuser ailleurs, c'est hyper important pour eux. Et donc ça, on n'en avait pas autant confiance en y allant.
C'est après qu'on a eu confiance, parce que en fait, il y a des personnes, et ça existe toujours, il y a des personnes qui s'occupent de ça, et après, on a eu des discussions avec eux. Il y avait un échange, une explication vraiment globale de ce problématique. Et on est content que ça s'est arrêté aussi.
Et donc, Steve, aujourd'hui, donc le paléontologue, travaille à la protection de ce site et cherche à l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Voilà. Donc ça. Et en fait, qu'est-ce qui est beau, c'est que Richard, justement le chef des tribus, Il voulait absolument nous parler de ces traces des dinosaures. Pour lui, c'était extrêmement important parce que c'est là où il vient. C'est leur histoire, c'est leur mythe, c'est comme nous, Adam et Ève. Donc en fait, c'est la Marella. Donc le film, il s'appelle la Marella. C'est là, je pense que c'est un peu difficile de vous expliquer. Il y a une patte de trois. C'est un oiseau qui est sorti de la mer. C'est un premier oiseau qui la patte de premier pas, qui est sorti de la mer, et avec le sable, il a créé deux êtres sans sexe, et ils ne pouvaient pas se toucher. En fait, ils n'avaient pas le droit de se toucher. Et sur un moment, ils sont touchés, ça crée l'homme et la femme. Et la Marella, en sachant qu'elle a fait quelque chose, elle s'est envolée dans le ciel. Et
on peut retrouver sa forme dans les étoiles.
Voilà. Et sa forme, il nous montre la forme dans les étoiles, dans les voluptés de ciel, la forme de Marella, qui est un gros oiseau avec des pattes comme ça qui flotte dans le ciel. Et ça, c'était vraiment assez émouvant, cette histoire. C'était une très, très belle histoire. Il faut aussi, quand vous dites quelque chose, c'est que ces sites-là, on peut les voir une fois par an. Parce que en fait, c'est qu'en juillet, pendant un mois, la mer
se retire.
Elle se retire pour permettre de voir ses empreintes. Et sinon, toute l'année, elle est couverte de l'eau. Et c'est très très beau. C'est assez poétique. Mmh. Et donc, on n'avait aucun choix de pas partir que à ce moment-là de juillet.
À cause des marées.
Voilà.
Et puis c'est... Elle redescend suffisamment pour pouvoir découvrir. Puis il y a des climats différents. Il y a un climat à un moment de l'année qui est très humide et il pleut beaucoup. Et en fait, les routes qu'on a empruntées deviennent des rivières. Des rivières à crocodiles, par ailleurs. Il y a marqué, on voyait des panneaux énormes avec « Beware of crocodiles ».
Crocodiles,
c'est marrant.
Je me souviens. Et donc, en fait, Marella, pour finir la trilogie, hein, parce qu'on est dans la trilogie. Donc, pour finir la trilogie, qu'est-ce que je voulais un petit peu montrer dans mon travail, c'est que, je ne sais pas, on n'est pas sur Terre, on ne sait pas où on est, c'est assez coloré. Et vous voyez que dans les films, il y a une personne qui est enfermée dans un casque, il y a une respiration. On ne sait pas, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est proche de nous? Voilà, on ne sait pas. Et en fait, je me suis inspirée beaucoup. Pareil, je travaillais avec le monsieur qui l'a... Je ne sais pas si vous connaissez l'homme volant. Ça vous dit quelque chose ou non? Vous savez, pour l'armée, là, le monsieur qui l'a construit, le français, avec le casque qui se déplace comme un drone. Ben, en fait, c'est des nouvelles technologies. Et en fait, j'ai eu une relation avec lui. Et comme on a conçu la musique avec Com, qui est juste avec nous, on voulait absolument donner cette atmosphère de casque et de quelqu'un qu'on ne sait pas, qui survole en cherchant sur une planète, on peut dire, où voilà, il découvre des traces d'avant nous. Voilà, tout simplement.
Et puis, ce qui était très beau aussi, le jour de notre arrivée à Broome, on est allé sur un site découvrir les premières traces de dinosaures que Steve souhaitait nous présenter. Et on était donc avec Richard, Greg, enfin, énormément de gens, avec voilà, notre chef opérateur, un astronome. Plein de gens étaient réunis là et on a vu deux traces de T-Rex. Et Richard nous a dit, ces traces se dévoilent à ceux à qui elle a envie d'être dévoilée. Donc elle se laisse voir que quand elles veulent être vues.
Parce que c'est très difficile de les voir, en fait, les Rex. Et c'est, on le voit bien à un moment dans les films, et qu'ils se couvrent de l'eau. Donc c'est extrêmement rare, en fait, de voir ces images-là. Et Marella aussi. Marella, on ne la voit jamais. Ouais. Parce que Marella, elle est très profondément où la mer, elle se retire. Il faut se dire que tu ne marches pas 5 minutes hein, pour aller le voir. Tu marches entre 20 minutes. Hein. Ce n'est pas un truc que tu as la mer ici, tu te marches 2-3 secondes. Hein. C'est extrêmement loin et c'est très caillou. Vous voyez les cailloux là, à un moment comme ça, il faut escalader. Il y a des montagnes à peu près comme ça qu'il faut escalader à quatre pattes pour traverser, parce que c'est des corails, hein. Donc tout ça, qu'est-ce que vous voyez, c'est du corail. Tout qu'est-ce que j'ai filmé, il y a le sable et tout ça, c'est du corail. Donc il faut avancer vraiment, c'est assez long et c'est hyper dur, quoi, en fait. C'est dur pour les voir. Et Marella, elle est très loin. Tu te rappelles, il nous a dit qu'en fait, qu'ils l'ont pris une fois, Marella. Non, c'est il n'a même pas pris l'empreinte de Marella parce qu'il ne l'a jamais trouvée. Parce que c'était toujours couvert avec de l'eau. Ils n'ont jamais pu réussir à le faire. Et en fait, on a des images... parce qu'en fait, tous les ans, je veux dire tous les ans, depuis maintenant 7-8 ans, hein, maintenant, j'ai créé un journal de bord, ça s'appelle. Et vous pouvez suivre chaque voyage en direct... sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, je pense que ça en a creux que deux, voilà. Et vous pouvez suivre en direct tous les voyages qu'on fait et voilà, pourquoi je voulais te dire ça, je ne sais plus.
Parce que c'est important aussi pour toi que les gens voient.
Voilà, en fait, j'aime beaucoup partager avec les publics les choses que je vis, en fait. Partager, en fait, la beauté, le travail que tu mets et d'avoir un échange. C'est assez important pour moi. Donc, le journal de bord, il existe depuis quelques années. Et là, en fait, avec Marion, on a un nouveau projet qu'on part au Texan.
On part au Texas dans 8 jours. Voilà, c'est imminent.
Voilà, donc on va faire 2 films et vous pouvez pareil suivre sur Instagram les 2 projets. Il y a un projet qui s'appelle 1600 mètres et qu'on travaille avec l'université de Texas.
L'Institut du Texas.
Et avec...
Avec un scientifique qui s'appelle Sean S. Gullick, qui a travaillé une expédition qui s'appelle Expédition 364. Qui se trouve, qui est allé aux abords du Mexique pour aller creuser là où s'est écrasée une des météorites à l'époque des dinosaures, pour aller jusqu'à 1600 mètres de profondeur à l'époque où donc les dinosaures ont disparu. Et donc ils ont extrait une immense carotte de pierre
qui fait 1600 mètres.
Qui fait 1600 mètres et qu'Angelica
va aller filmer. Et en fait, je vais filmer parce que. En fait, c'est comme un livre qui est ouvert. Donc, on voit tout. On voit l'impact. Hein. C'est dessiné complètement dans la pierre. Une impact. Et on voit les brûlures dans la terre. Combien de temps ça dure. Combien de temps ça durait. Ils ont dit, hein. C'était je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas, c'est 200 ans, 300 ans, un truc comme ça. Non, c'était plus que ça.
La disparition des dinosaures.
Non. Ah bon ? Mais après. Je ne m'appelle plus. Il y a un chiffre qu'ils nous ont donné, mais je ne m'appelle plus les chiffres. Ouais, moi non plus. Mais voilà, donc il y a ce projet-là. Et deuxième projet, c'est un truc...
Alors, ça s'appelle Men Like God.
Les hommes comme les dieux.
C'est le premier film d'Angelica où vous verrez des êtres humains. Et ça va être tourné dans une ville au Texas, au nord de Houston, qui s'appelle Sweetwater. Et à Sweetwater, depuis 1958, il y a un festival dédié aux serpents à sonnettes. Oui, c'est singulier. Et qui célèbre en fait la chasse des serpents à sonnettes, parce que c'est une région où il y en a énormément. Et donc, les gens viennent pour manger, tuer, torturer des serpents. Et donc, on va aller filmer ce festival.
Voilà,
singulier projet.
Je pense que si vous voulez poser des questions, on a fait le tour le plus rapide qu'on aurait pu faire. Voilà,
je voulais terminer.
Oui, Marion.
Parce qu'on n'a pas... On voulait avec Angelica. Je finis juste une seconde. C'est très très rapide. C'est simplement pour remercier déjà tous les gens qui ont travaillé avec nous depuis 6 ans. Alors tous les gens qui sont pas là, toutes nos équipes de tournage, tous les gens qui ont soutenu nos projets, et puis aussi le Centre d'Art. Alors Marianne, encore une fois, mais aussi toute l'équipe. Guillaume, Karine, qui ont été vraiment hyper importants pour nous, évidemment pour la musique, ouais. Cool. Voilà, toutes les équipes qui nous ont accompagnés pendant tout ce voyage, ça a été vraiment une belle aventure. Et je vais juste dire merci à Angelica, je ne vais pas dire plus parce qu'elle ne voulait pas que je la remercie.
Merci à toi aussi.
Une question.
Voilà. Mais non, vous allez partir, donc vous n'allez pas rester là pendant 3 mois pour faire tous les jours une conférence de ce type. Donc, est-ce que vous allez rajouter des cartels, un film explicatif à l'entrée de votre exposition là, parce que si on n'a pas toutes ces explications, ça devient un peu.
Dans l'art contemporain, en fait, moi, je dis, vous savez. C'est déjà l'œuvre que je l'ai fait, c'est une seule œuvre, et je pense que vous savez, quand on voit regarder un film, on a une séance de film, il y a 100 personnes, ils voient le même film, mais ils ont tous pas du tout senti la même chose. Ils n'ont pas du tout les mêmes regards sur quelque chose. Et je pense que dans mon l'univers, on n'a pas besoin de tellement d'explications, aussi précis que je le fais. C'est extrêmement rare hein, que je l'explique autant, parce que je pense qu'une aventure, quand on laisse rentrer les spectateurs, elle se proprie leur propre image. Donc moi je l'explique un peu ma vision des choses que je l'ai fait, mais si vous voyez autre chose, c'est un plaisir que vous voyez autre chose, parce que c'est, on peut pas dire on aime la peinture. Vous voyez, je pense que vous êtes libre de sentir et de comprendre par vous-même le travail que je l'ai fait, tout simplement. Il y a des autres questions ?
J'avais juste une question un peu du scientifique. C'est dans le film que vous avez tourné en Australie, on voit les empreintes de dinosaures, mais à certains moments, il n'y a pas des stromatolites, les formes...
Non, ce n'est pas des dinosaures, ça.
Ah bon, les formes arrondies
Oui, ça, c'est des traces. Oui, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. C'est des pas comme ça qu'ils faisaient. D'accord. Ouais. Des pains ronds.
Je voulais savoir, pour justement le film sur en Australie, est-ce que vous avez retravaillé les images du point de vue de la couleur
hein? Non, en fait, la couleur, c'est exact.
À certains instants, on a la sensation, une sensation très picturale. Hein. De la matière même.
Oui, mais c'est fait complètement exprès. En fait, la couleur, elle est retravaillée. La couleur, elle existe déjà, parce que c'est un site extrêmement coloré. En fait, par exemple, la manquée de rose, ça évoque le ciel rose qu'on voyait comme ça. Si vous aurez suivi pendant notre voyage un journal de bord, vous n'aurez même pas posé cette question, parce que c'est exactement la peinture qu'on voyait quotidiennement là-bas. On a juste retravaillé un peu la lumière. Il faut se dire qu'avec les chefs opérateurs qu'on a travaillé sur place, c'était travailler dans les couchers de soleil, qui est extrêmement difficile à reproduire ces images-là. Tout simplement.
Mais Angelica travaille systématiquement avec un étalonneur, Yannick Winman.
Oui, qui repulpe toutes ces couleurs-là, bien sûr.
Puis l'Australie, moi c'était la première fois que j'y allais, mais c'est vraiment c'est une région du monde où la lumière est
incroyable. C'est vraiment le rose, il y a des dizaines de roses, des bleus, des verts. C'est juste incroyable. Le sable, il peut être doré, il peut être blanc, ou vert, jaune. C'est indescriptible.
Les contrastes ne sont pas du tout les mêmes que ici.
C'est pas la même lumière. Ouais. Et juillet pour eux c'est l'hiver hein. Il faut se dire aussi c'est pas du tout la même nuance. On n'est pas en plein été, on est en plein été en France, mais là-bas c'est plein hiver, donc le soleil il se couche assez rapide, mais il se lève très très tôt, et on a fait des tournages avec le coucher de soleil qui est un peu compliqué parce qu'on avait peu de temps de faire des tournages. C'est tout. Il y a une autre question?
Oui.
Alors n'hésitez pas, voilà. Annick, oui.
Tu as parlé de tes films. Mais dans l'exposition, il y a des... Alors, tu sais que je ne connais pas grand-chose. Il y a des panneaux magnifiques.
Oui, c'est vrai qu'on a
comment ça s'inscrit dans...
Là, pourquoi on n'a pas parlé? Parce qu'en fait, on voulait... C'est juste composé des voyages qu'on a fait avec Marion, pour te répondre à la question. Les panneaux, oui, dans Mémoire des glaciers, les tableaux que je l'ai fait, ils sont en plusieurs morceaux, c'est des cartes, tout simplement des cartes, des voyages que je l'ai fait en Patagonie, donc qui reproduisent les choses que je l'ai vues, des morceaux, je veux dire, c'est un peu abstrait, mais il y a des mouvements, il y a de la couleur, c'est de la cire. Il faut se dire que c'est un travail de cire, voilà, tu connais, Annick, très bien. Et en fait, c'est des cartes de paysages qui sont ajoutées à cet espace. Quelqu'un qui peut quelque chose? Non, personne?
Moi, je voulais simplement dire que votre travail est magnifique et que je suis arrivée à faire le lien entre vos œuvres cinématographiques et picturales. Et vous m'avez fait penser, puisque je pense que ce n'est pas un hasard, au film de Patricio Guzman. Et voilà, et donc j'ai revécu ça avec du coup double.
Merci voilà, beaucoup.
Ce petit enfin, ce lien intense pour moi, puisque j'avais beaucoup apprécié ces cosmogonies.
Bien sûr.
Vous n'avez pas rencontré?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais pas cette chance. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut parler là? Allez, n'hésitez pas de lever la main.
J'ai une question sur l'association, enfin, la création sonore. J'imagine que
c'est... Comme, viens avec nous parce que tu peux parler plus.
Bonsoir.
Ouais, j'ai avec
nous. C'est pas bizarre. Que...
Non. Effectivement, l'association de création sonore avec les images, elle est absolument essentielle. Enfin, la relation, elle est nécessaire. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Là,
pour répondre, alors c'est marrant parce qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure, c'était oui, quant à l'explication des films. Et en fait, j'aurais pu y répondre parce que Angelica disait que qu'elle voulait laisser chaque personne avoir sa propre sensation de ses films. Et c'est un peu ce qui s'est passé entre nous. C'est-à-dire qu'elle m'a présenté les films. Moi, je sais que pour Mémoire des glaciers, c'est vrai, tu m'as dit, écoute, éclate-toi. Voilà. Et du coup, moi, j'y ai vu une narration, donc j'y ai vu une histoire, j'y ai vu des sons, j'y ai vu des atmosphères, j'y ai vu des choses vivantes, et c'est ce qui a fait la narration du film, en fait. Donc, mais c'est mon interprétation, c'est ça qui est... Et donc, à chaque fois... Après, pour Bepi Colombo et Marella, comme on avait déjà travaillé sur Mémoire des glaciers, et que ça s'était très très bien passé, après, Angelica a eu, avait quand même des idées. Par exemple, cette idée de respiration sur Marella, c'était toi qui l'avais... Si, c'était toi qui l'avais. J'ai trouvé ça brillant. Parce qu'il y a le mouvement de la mer, on voit la mer et puis on entend...
C'est surtout un cosmonaute, on voulait quelque chose qui descend, quoi.
Ouais. Et puis on n'a pas... Et en plus, moi, ce qui m'avait fasciné dans ce film-là, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a un moment, on a l'impression de survoler des montagnes. On n'a pas de notion de distance, on n'a pas de notion de... Voilà. Mais on n'a pas de notion d'échelle. Mais en fait, le drone, il n'est pas très très haut. En fait. C'est ça qui est extraordinaire.
Ah
non,
ah
si, non, non, c'est la mer, si. Mais il y a des endroits où on entend la respiration et on voit comme des espèces de crevasses. J'ai même fait exprès, si vous revoyez le film, de faire un son de roche qui tombe et qui passe de gauche à droite. Mais en fait, c'est comme ça. Donc c'est aussi prêter des sensations ou prêter des... J'ai fait mon travail, c'était aussi prêter des sensations que l'on peut ressentir en voyant ces images, mais qui sont des choses presque fantasmées, fabriquées. J'ai entendu des gens parler de cris de dinosaures, et c'est, alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça, pour le coup, ça a marché. Ce sont des sons de didgeridoo aborigènes. Les aborigènes, quand, ce sont des rites, lorsqu'ils jouent du didgeridoo comme ça, ils émettent des cris d'animaux pour s'emparer de leur âme, et pour pouvoir vivre, c'est comme un rite chamanique, en fait. Et pouvoir vivre une expérience spirituelle à travers l'âme de ces animaux. Donc j'ai pris ces sons-là, que j'ai associés aux empreintes, et à chaque fois, ce qui est extraordinaire, j'ai entendu des gens dire « c'est génial, ces sons avec les cris de dinosaures, et donc ça a marché. Voilà. »
Et puis enregistrer les cris de dinosaures.
Ah oui, c'est ça. J'étais là à l'époque.
Et ils crient pendant qu'ils jouent au didgeridoo ?
Oui, ils ont une technique de souffle qu'on appelle le souffle continu. En fait, clairement, c'est quand on souffle, alors on souffle comme ça, et on remplit ses joues d'air, et pendant qu'on souffle l'air qu'il y a dans les joues, on inspire. Ce qui fait que ça fait une espèce de souffle continu. Et y a un bourdon, donc qui est très grave, qu'on entend qui fait un peu comme ça, et à un moment, hop, il pousse des cris, et avec la résonance du bâton et les harmoniques, ça crée des espèces de cris d'animaux. Voilà.
Ça veut dire qu'il y en a de différents types ?
Différents types, différentes tailles, oui. Oui, c'est un peu... Enfin, j'ai pas approfondi la chose, mais j'imagine que c'est à peu près comme les bois dans l'orchestre classique, quoi. Il y a les graves, les ténors, les altos et les... Enfin, voilà. Et plus le bâton est gros et long, et plus le son est grave, en fait.
J'ai plus ressenti pour ce film-là, enfin, cette bande sonore-là, des moments où c'était inquiétant.
Oui. Oui. C'est en fait, moi je sais que comme la première fois que j'ai vu ce film, déjà je le dis souvent à Angelica, ça a été le plus difficile pour moi parce qu'il est très contemplatif. Il y a moins de rupture que les autres, donc on est plus dans une échelle de temps étirée. Et c'est vrai que ce moment là en fait, je vois parfaitement le moment dont vous parlez, c'est un moment où on commence à voir des traces et on se demande ce que... Enfin, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est ? Et alors, j'ai dit, mais ce sont des traces de dinosaures, mais c'est incroyable ! Et donc, j'ai voulu retranscrire ce mystère un peu, le mystère que j'ai eu en étant un peu sidéré de voir ça, en fait.
Moi, j'ai appris... Enfin, moi, mon interprétation, c'était plus le côté, justement, extraterrestre, enfin...
Ah oui.
Alien.
Ah oui. Ouais.
Non, mais c'est bien parce c'est que bien. C'est ce que je voulais dire.
C'est parce, que... parce qu'on adore la science-fiction.
Voilà, nous on adore.
En fait, faut qu'on vous dise qu'on a un point commun.
Voilà.
C'est qu'on adore la science-fiction et les films de science-fiction.
Des fois, je l'appelle et je lui dis, comme la musique de Alien, elle est géniale. Regarde, j'écoute là. J'écoute et lui, il dort là. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut là, je dis, c'est super. Donc,
c'est vrai que de ce point de vue-là, on a été très raccord.
Ouais, c'est vrai. C'était un plaisir de travailler aussi avec toi parce que c'était quand même 5 musiques et dans le murmure où il y a
le phare.
Ce soir, vous verrez le phare allumé avec le sang qui va envahir toute la forêt, quoi. Donc, ça, c'est un autre travail.
Oui, d'ailleurs, moi, je l'ai découvert donc là parce qu'elle en avait parlé. Et ce que le site est extraordinaire, et surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir utilisé le phare comme pavillon. En fait, c'est comme si le phare était un énorme haut-parleur.
Résonance.
Je me suis amusé tout à l'heure à faire des... J'aime beaucoup les sites comme ça qui résonnent beaucoup, et je me suis amusé à faire des accords en sifflant. C'est-à-dire que je faisais une note qui résonnait, une autre note et une autre note, et ça faisait les trois notes ensemble, comme elles duraient, ça faisait un accord, et j'aime. Ça te donne envie d'enregistrer des choses ici.
Ouais, tu vois.
Faire une résidence.
regarde. Bon, on va manger maintenant. Je plaisante. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose.
Peut-être 3 questions.
Ah oui, d'accord, allons-y.
Pour Pépi Colomb, vous dites que vous avez eu une heure. En fait, dans l'espace bleu pour filmer.
Non, tout, les deux espaces ineurs, oui.
Comment je trouve que les mouvements de caméra, ça me fait vraiment penser à des mouvements de. C'est très cinématographique, les choses qu'on voit dans les séries, dans les films contemporains. Comment vous décidez en si peu de temps, finalement, vous avez fait des repérages avant et vous en
Non, aucune, non, j'ai jamais eu de. Je sais même pas. On avait mon chef opérateur où il s'est tapé sur les doigts, où il fallait qu'il travaille, quoi. Donc en fait. En fait, le pauvre, il a transpiré tellement qu'il avait des traces de trucs comme ça. Et je lui ai dit, on a une heure, donc tu filmes tout et n'importe quoi. Et on a fait ça. non, on a...
On lui a demandé avant d'avoir un système de...
En fait, c'est des gros systèmes de cinéma. De Steadicam, vous savez, qui se promènent. Et en fait, c'est un effet de drone, on peut le dire.
C'est ça. Comme toi, tu désirais qu'il y ait un effet similaire à celui du drone et qu'on ne pouvait pas emmener un drone
sur place. Tout était déjà réfléchi, bien sûr, parce qu'on avait du gros matériel avec nous.
C'est vrai qu'il est cinématographique,
mais il était tout seul à portée. Tu connais ça, c'est une lourdeur, mais pas possible.
Mais ça fait un effet de caméra subjective.
Voilà, exactement.
C'est comme si.
C'est comme si tu avais des rails en fait.
Comme si on filmait à la première personne, c'est une vision, comme si c'était quelqu'un qui se déplaçait en fait.
Oui.
Ça permet cette fluidité-là.
Que la mouvements très rapides comme ça, c'est très inquiétant.
Ouais. Donc en fait, on avait vraiment peu de temps, on avait vraiment une heure, mais moi, dans ma tête, on a eu beaucoup d'images, parce qu'il faut se dire que quand je travaille, je prends beaucoup d'images de sites, et je pars pas comme ça en disant je sais pas quoi le faire, c'est juste impossible, parce qu'on a peu de temps, parce qu'on n'a pas de moyens, on a peu d'argent, et on doit, quand j'arrive sur n'importe quel site, en l'occurrence Baby Colombo, et j'arrive et tout de suite, je suis une caméra à moi-même. Mmh. C'est comment moi je le vois. Donc il est avec moi et j'ai dit on filme tout de suite. Et on lui prépare des trucs, on lui donne tout de suite les caméras, il se repose, hop, on fait ça, on change, et en une heure, on peut faire quelque chose. Si tu as déjà l'idée dans la tête, je veux dire écrite, parce que moi j'ai fait mes scénarios, c'est plus facile. Mais c'est vrai, ils nous ont dit déjà dès le départ, vous avez le temps d'une heure. Donc on s'est préparé déjà. On était déjà préparé, on savait très bien quel matériel on va le prendre. Et j'avais un chef opérateur qui était assez fort là-dessus, niveau de portée, c'est physique. Quoi. Voilà. Et une question ? Encore, hein.
Voilà. Il y avait trois.
En tant qu'auteur, comment est-ce que vous vivez le fait que Richard, donc cet aborigène, ait dû faire appel finalement à des occidentaux, à des personnalités extérieures pour pouvoir protéger
parce que ce territoire. Parce que Steve, il était déjà chercheur spécialisé dans les crocodiles, n'est-ce pas ? À l'école, dans l'université, et c'est l'école d'université, paléontologie. Donc en fait, ils ont appelé l'université, et l'université, c'est lui qui est spécialiste en fait. En fait, il est spécialiste, un des meilleurs spécialistes dans l'Australie. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont mis en contact, quoi. Non, je pense que c'était passé comme ça. Donc voilà. Et troisième question.
C'était une petite remarque, c'était par rapport au son, et justement, sur ce dernier film, à un moment donné, quelquefois le son est, on va dire, extérieur à l'image.
Oui.
Et à un moment donné, il y a une petite réserve d'eau dans une espèce de coupelle, et en fait, l'eau vibre.
Oui.
Est-ce que vous avez fait un enregistrement du
DJI
sur place ou...
Non.
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ce sont les images d'Angelica. Et oui, l'eau vibrante et tout. Non, après, ce sont des sons que j'ai...
L'eau vibrante.
Oui, non, mais c'est ça qui est...
Ah ouais, mais ça, ce sont des détails. Mais oui, mais... c'est intéressant de souligner ça.
Oui,
parce que
c'est vrai, c'est intéressant.
Moi, ce sont des... Je compose de la musique aussi pour le cinéma. Et... Il faut vous dire que quand je fais de la musique, les images, je les vois des centaines, des milliers de fois, parfois pendant des heures. Je peux me laisser ça tourner pendant des heures, enfin, c'est assez obsessionnel. Et c'est vrai que je fixe sur ce genre de choses et je les accompagne. Donc si ça a marché, tant mieux, merci beaucoup.
C'est moi qui m'a dit de faire de l'écho.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
Non,
mais il parle du coup.
C'est moi.
Oui, parce qu'à un moment, je voulais...
Non, c'était une plaisanterie.
Non, mais si, c'est drôle. Je voulais mettre des... J'avais fait des recherches de dingue avec des sons de nature, avec des oiseaux et tout. Puis Angelica m'a dit... Non mais Koum, les petits oiseaux là, c'est pas possible. Moi j'ai envie d'un truc qui vibre comme ça. Je fais ok.
Ouais, il m'a foutu un espèce des oiseaux paradisiaques. Je dis qu'est-ce que ça fout là-dedans ?
Moi j'étais complètement contemplatif.
Et justement, alors pourquoi pas éventuellement faire, là c'est un travail de musical d'accompagnement qui se fait après des images, et pourquoi pas envisager une création en live au moment de la
prise de vue.
Ouais.
Non, c'est pas possible.
C'est difficile, c'est impossible.
En fait, toute la musique, elle doit être faite dans les studios, pour beaucoup de raisons, c'est juste impossible niveau matériel.
Niveau matériel et tout.
On aurait pu faire quelque chose, participer à une espèce de performance que tu fais de la musique en direct.
Pendant que les images sont projetées
à
la rigueur.
Oui, mais pas
à la rigueur. Ouais, comme
ça. Pour proposer de voyager avec.
Oui, c'est ça.
Oui. Ah oui,
d'accord. T'as compris.
Oui, mais ça va, hein. J'ai compris.
Non,
mais si les gens ils nous donnent de l'argent, on paye des billets pour comme ça.
Enregistrer des Indiens.
Voilà.
Des serpoissonnettes. Ah, voilà.
Serpoissonnettes.
Ça
donnerait trop de... Comment dire?
Je comprends, déjà. Bien sûr, bien ouais. sûr.
Musical, quoi.
Oui, mais c'est vrai que il y a... Moi, c'est la première fois que je travaille avec une artiste comme Angelica, plasticienne, et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et à te rencontrer et à le faire, il faut quand même que je le dise, voilà, merci.
Merci.
Et en fait, ce que j'ai découvert là-dedans, c'est qu'il y a une forme de liberté qui est assez absolue. Alors, qui a été un peu inquiétante au tout début, parce que j'ai l'habitude de travailler sur des films qui sont des films de cinéma, donc qui sont dialogués, mis en scène avec des acteurs, des actions, et là, on est complètement hors tout ça, avec des sons directs, des choses comme ça dont je dois tenir compte. Et là, c'est la liberté absolue. Et j'avoue que c'est quand même assez plaisant. Parce que, en fait, pour chaque film, je pourrais faire une musique différente et on aurait des sensations différentes et des explications différentes. Et ça, c'est assez... Enfin, je sais pas, c'est assez... c'est intéressant d'un point de vue juste de la création pure, en fait.
Bon, c'est bon.
Voilà. Question.
Merci.
Merci.
Des Lilles, c'est aussi des capsules sonores à écouter au fil des expositions du Centre d'art sur Radio Vassivière et des chroniques sur les livres présentés dans la librairie pendant la période de l'exposition.